Bonjour à tous, frères et sœurs. Toujours une joie que de nous retrouver tous les dimanches dans la présence de notre Dieu pour célébrer sa gloire, proclamer ses louanges et aussi écouter sa parole. Je voudrais particulièrement accueillir certaines personnes. Merci à Martine Ponce d'être avec nous ce matin pour ce culte. Elle nous parlera d'opération chocolat. Alors, c'est bon les chocolats, mais voilà, c'est une opération plutôt dans l'ordre missionnaire. Il s'agit de parler de la mission. Donc merci à Martine d'être présente parmi nous ce matin. Je voudrais aussi accueillir Eva, voilà, avec qui j'ai eu un entretien hier. Voilà. Bienvenue donc à Eva et à sa maman Mindy. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous accueille ici dans sa maison. Alors, j'oublie aussi les prénoms de certaines personnes qui sont là, peut-être pas pour la première fois, pour la deuxième, je me souviens de nos amis du Charel. Hein. Voilà, bienvenue aussi parmi nous. En tout cas, que le Seigneur nous accueille tous ce matin dans sa présence. C'est lui qui nous a invités. Mais c'est lui qui nous accueille. Nous avons entendu cette belle histoire, les dragonnades avec Christ et notre frère. Et il nous a tout donné. Et il continue encore à tout nous donner. Ce matin, nous allons parler justement de Christ, évidemment, de notre union avec le Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous l'avons entendu que nous sommes tes enfants. À travers l'œuvre de ton Fils qui est mort à la croix, tu nous as adoptés, faisant de nous tes fils et tes filles. Et tu nous as donné un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Et nous nous sommes réunis ce matin, justement, dans ta présence, pour t'adorer à travers tout ce que nous pouvons faire, dans ta présence, que nous puissions chanter, que nous puissions nous lever, que nous puissions rester assis, écouter ta parole. Nous voulons vraiment être dans une attitude d'adoration, devant celui qui est notre roi. Oui, Seigneur, c'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'acclamer. Et nous prions que le Saint-Esprit, justement, prenne autorité sur chacun d'entre nous pour que ta parole nous pénètre. Que tout esprit de distraction se taise maintenant. Dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit brille par sa présence, qu'il rayonne en ce lieu dans nos vies et qu'il nous fasse entendre la voix de Jésus. Jésus a dit qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous le transmettra. En parlant du Saint-Esprit, oui, Esprit de Dieu, transmets-nous ce que Christ désire nous enseigner ce matin. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Je disais que nous parlerons de notre union avec Christ à travers plusieurs passages, mais je vous lis d'entrée de jeu un verset tiré de l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 1, c'est le verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. Il dit ceci. En parlant de Christ, qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Frères et sœurs, alors que nous nous apprêtons justement à écouter la parole de Dieu, il y a un principe indispensable que nous ne devons pas oublier. C'est la dépendance totale, pleine et entière envers le Saint-Esprit. Dans le livre des Cantiques, des Cantiques, au chapitre 5, au verset 2, il est dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la lune. » Fin de citation. La fiancée dormait, mais son cœur veillait. Elle a dit, « J'entends une voix qui frappe à la porte. » c'est une voix qui frappe. La voix, frères et sœurs, est la parole de Dieu. Si on entend quelqu'un qui frappe, cela signifie qu'il y a quelqu'un qui désire entrer chaque fois que Dieu parle. Chaque fois que Dieu parle, cela signifie qu'il désire entrer. Sa voix est une invitation à le laisser entrer et ainsi à répondre à sa parole. D'ailleurs, souvenons-nous, conformément à Apocalypse, chapitre 3, verset 20, on a entendu la lecture dimanche dernier, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. » Fin de citation. Frères et sœurs, cette vérité de l'union avec Christ se retrouve dans toute la Bible et tout particulièrement dans le Nouveau Testament. C'est si vaste. Nous devons demeurer en Christ comme le savant demeure sur le cèpe. Nous devons avoir une relation avec Christ comme une épouse a une relation avec son époux. Nous avons une relation avec Dieu de la même façon que les enfants ont une relation avec leurs parents. Christ est pour nous ce que la tête est pour le corps. Notre union est également illustrée par l'exemple de ce que le soleil, est pour la terre. Vous voyez, c'est une image. Une autre image est ce que le sol aussi est à la plante. Lorsque vous lisez les épîtres du Nouveau Testament, l'expression « en Christ » revient plusieurs fois. « en Christ ». Ce matin, donc, je vais évoquer un aspect de notre union avec Christ en termes d'union qui nous apporte une vie d'abondance. En termes d'union qui nous apporte un flot de vie. Conformément à Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 2, un flot de vie. Je cite, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Frères et sœurs, en parlant de notre union avec Christ, en termes d'abondance de vie, en termes de flot de vie, il y a plusieurs grandes images qui illustrent cela. Par exemple, j'ai parlé de l'image du cèpe et des sarments. Mais celle qui nous intéresse ce matin est l'image de Christ qui est la tête du corps. Dans le Nouveau Testament, le mot « tête » est utilisé de nombreuses différentes façons. L'une est que, de la même façon qu'Adam, donc était la tête d'une race, Christ est le second Adam, donc la tête d'une nouvelle race. Évidemment, la race d'Adam est une race déchue. Parfois, le mot « tête » est utilisé dans le sens de la tête d'une compagnie, d'une entreprise, d'une entité. Dans Colossiens chapitre 1, verset 18, on a dit que Christ qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Éphésiens chapitre 1, verset 22 dit, « Il a mis tout, c'est-à-dire Dieu a mis tout sous ses pieds, sous les pieds de Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » C'est la tête en tant qu'autorité. Colossiens 2, 10, « Vous avez tout, mais vraiment tout, on a entendu, pleinement en Christ. » Christ nous a tout donné. Il est le chef de toute domination, de toute autorité. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de parler de Christ comme étant la tête d'une nouvelle race, ni de parler de Christ, la tête, comme une autorité. Colossiens 2, 18 à 19, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher à la tête, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Christ est la tête du corps. Et le corps, justement, doit s'attacher à la tête. Dans ce passage, le mot « tête » a le sens de cerveau. Lorsqu'il est dit qu'il est la tête du corps, cela signifie qu'il en est le cerveau du corps, le cerveau. Ça découle dans les membres, comme la vie du cerveau. Lorsqu'on fait la remarque à quelqu'un, mais parce qu'il a fait une erreur, notamment à un enfant, on lui dit « Utilise ta tête ». On lui demande de faire quelque chose, il arrive, il dit « Utilise ta tête ». En fait, en réalité, ce qu'on veut dire par là, c'est « Utilise ton cerveau », c'est-à-dire « Réfléchis ». Mais cela s'apparente aussi à un conseil spirituel, car selon la parole de Dieu, utiliser sa tête revient à mettre Christ en avant. Utiliser sa tête. Mettre Christ en avant, mais parce que Christ est justement notre tête. Alors, je voudrais tellement utiliser ma tête. Je voudrais tellement utiliser ma tête. En effet, Jésus est ma tête. Je n'ai pas fait des études de médecine, mais merci parce que je parle sous le contrôle d'un médecin. Mais ce que j'ai appris à travers la lecture est très impressionnant. Le cerveau est responsable de la régulation des autres systèmes d'organes du corps, de la cognition, de la mémoire, des émotions, de la perception des sens, de la motricité et de la régulation des processus corporels. Le cerveau. Il intègre des impulsions, des sens et des informations afin d'élaborer, des perceptions, des pensées et des souvenirs. Le cerveau nous permet d'avoir conscience de nous-mêmes et nous offre une capacité de parler et de nous mouvoir justement dans notre monde. Le cerveau est un système nerveux connecté au corps. Et c'est le meilleur ordinateur au monde, le cerveau. Vous ne pouvez pas respirer sans votre cerveau. Vous ne pouvez pas digérer vos aliments sans votre cerveau. Les mouvements volontaires et involontaires sont contrôlés par votre cerveau. Vos cinq sens sont contrôlés par votre cerveau. Toutes vos émotions sont contrôlées par votre cerveau. Si votre cerveau est bloqué, vous êtes paralysé. Vous ne sauriez même pas qui vous êtes et où d'ailleurs vous êtes. Votre cerveau pèse environ 1,4 kg. Votre cerveau a plus de 90 milliards de neurones. C'est une chose impressionnante que Dieu nous a donnée. Et cela est une image de Jésus en relation avec son corps. Frères et sœurs, alors vous voyez que ce n'est pas un cours au sujet du cerveau, mais c'est une image tout simplement de Christ. Colossiens chapitre 2, verset 19, « Sans s'attacher à la tête, dont le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Bien-aimé, le cerveau est un donateur et le corps est un receveur. Il tire pour recevoir. C'est là la simplicité, mais et aussi la complexité de notre union avec Christ. Sa vie s'écoule en nous. Alors, essayons de détailler cela précisément sous forme de vérité spirituelle. En tant que mon corps, Christ fait deux choses. Non seulement, vous voyez, on a entendu tout à l'heure, à partir du psaume 34, non seulement il me donne des commandements, mais bien plus, il me rend capable d'obéir à ses commandements. Il me donne également la puissance d'obéir à ses commandements. Mon cerveau me demande de bouger ma main. Et ensuite, il lui donne la puissance pour bouger. Mon cerveau dit à mon pied de marcher. Et ensuite, il me donne la puissance pour marcher. Mon oreille ne sait pas qu'elle est une oreille. Mais lorsque Dieu parle à mon oreille, cette dernière fait quoi? Elle écoute. Elle se met à écouter. Christ est ma tête. Et il me donne un commandement. Ainsi, ma tête me dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ensuite, elles me rendent capable d'aimer ma femme, de faire cela. Attachez-vous fermement à la tête. La tête dit, soyez toujours joyeux. Ensuite, elle vous rend capable de faire cela. La tête dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ensuite, elle vous rend capable de faire cela. Donc, la tête donne le commandement et la puissance pour accomplir le commandement. Alors, pourquoi est-ce que Jésus pouvait dire à l'homme à la main sèche, je suis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 13, « Étends ta main. » Mais il a déjà une main sèche. Jésus lui dit « Étends ta main ». Pourquoi Jésus pouvait lui dire « Étends ta main » ? Mais c'est parce qu'il lui a aussi donné la capacité de tendre sa main. La suite dit « Et il l'étendit et elle devint saine comme l'autre main ». Pourquoi est-ce que Jésus pouvait dire au paralytique « Mais lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison » ? Marc chapitre 2 verset 11. Mais c'est parce qu'il lui a donné la capacité de le faire. C'est cela, le ministère de la tête. Il ordonne et en même temps, il donne la capacité d'accomplir ce qu'il a ordonné. C'est le ministère du cerveau. Pourquoi a-t-il pu donner un commandement à Lazare ? Jean chapitre 11, verset 42. Lazare sort ! Mais c'est parce qu'il lui a permis de vivre à nouveau. La tête va permettre au corps de vivre à nouveau. Ainsi, Christ est notre tête. Ma main ne sait pas que c'est une main. Mon pied ne sait pas que c'est un pied. Mon oreille ne sait pas que c'est une oreille. Mais si ma main vit pour le plaisir de mon cerveau, si mon pied vit pour le plaisir de mon cerveau et que mon oreille aussi vit pour le plaisir de mon cerveau, alors il n'y aura pas de problème dans mon corps. Pas de problème. Ainsi, Christ n'est pas uniquement celui qui donne et celui qui pourvoit en tant que la tête, il est celui aussi qui unit les membres du corps. Lorsque les membres reçoivent la vie de la tête, ils partagent une vie commune. De sorte que ma main n'a pas de vie propre. Il n'y a pas de vie dans mon pied en lui-même. Il n'y a pas de vie. Le corps a une seule vie et cette vie est Christ. Alors que Christ donne la vie aux membres, les membres sont unis à la tête et ils sont par conséquent unis tous ensemble. Si vous vivez dans l'union avec Jésus et que moi je vis dans l'union avec Jésus, frères et sœurs, nous sommes un. Nous sommes un. C'est une chose si précieuse. Lorsque je me lève le matin, mais je n'ai pas de comité de pilotage avec les membres de mon corps. Je ne dis pas à ma main droite, écoute, soulève la couette, enlève le drap. Je ne dis pas à mes pieds, pied droit, sors en premier du lit, ensuite pied gauche, tu vas suivre. Imaginez que ma main droite ait une volonté propre et que ma main gauche aussi ait une volonté propre et que mes pieds aient leur propre volonté. Imaginez qu'un pied veut aller à gauche et l'autre cherche à aller à droite. Ce serait la catastrophe. Si mon nez disait « je désire sortir pour sentir un peu le parfum des fleurs, puisque c'est la période » et que mon dos justement dise « oh non, moi je souffre et je désire aller au lit pour me reposer », vous voyez que ce serait la catastrophe. Si ma bouche disait « j'ai faim, je désire manger » et que ma main dise « non, je désire moi aller lancer des balles de baseball », quelle confusion ce serait. Frères et sœurs, mais c'est exactement la confusion que nous voyons dans l'Église de nos jours. C'est exactement cette confusion. C'est parce que les membres n'ont pas une vie commune qu'il y a cacophonie, qu'il y a division. Chaque chrétien, vous voyez, a sa propre vie. Chacun a sa propre vie. L'un désire aller dans un sens et l'autre dans un autre. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, mais attachez-vous. Attachez-vous fermement à la tête. Et ensuite, il n'y aura qu'une seule vie dans le corps. Une seule vie. Pas plusieurs. Si ma main droite est correctement unie à ma tête et que ma main gauche aussi est correctement unie à ma tête, je vivrai dans une parfaite harmonie. Si vous vivez dans la communion avec Jésus et que je vis dans la communion avec Jésus, nous sommes un. Nous n'avons pas besoin de nombreux programmes pour avoir l'unité dans l'Église. Non. La façon pour être un est de s'attacher à Christ qui est la tête. Frères et sœurs, si nous avons Christ, nous sommes un, et nous ne nous diviserons jamais. Si vous regardez à Christ et que je regarde à Christ, nous sommes un. Et des chevaux de trait ne pourraient pas nous séparer. Ainsi, Christ est le Seigneur. Et je vais lui obéir. Christ est la vie. Je désire que sa vie coule en moi. D'où l'union avec Christ est également une union intime. L'illustration est le mariage. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, mais parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et Romains chapitre 7, verset 4 dit « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à un autre époux, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Nous sommes mariés à celui qui est ressuscité d'entre les morts, de sorte que nous portions des fruits pour Dieu. C'est-à-dire que L'union, frères et sœurs, c'est l'obéissance. L'union, c'est le fait de recevoir. L'union, c'est la relation avec Jésus. Non seulement il vous aime, mais il est également amoureux de vous. C'est une histoire d'amour. Il ne peut tout simplement pas assez se réjouir en vous. Genèse chapitre 4, verset 1 dit « Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 6, au verset 3, il est dit « Connaissant, cherchant à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Voici la façon dont la Bible illustre, utilise le mot « connaître ». Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut. Il s'agit bien d'une relation. Qu'est-ce que l'union avec Christ? L'union avec Christ, c'est recevoir sa vie. L'union avec Christ, c'est une relation intime, avec Christ. Et une relation intime s'entretient. Il s'agit de grandir, de s'accroître, de se développer davantage sans cesse dans la connaissance de celui avec qui nous sommes en intimité. Que Dieu, notre Père céleste, soit loué justement pour cette merveilleuse vérité de notre union avec Christ, qu'il nous délivre justement de notre façon de faire qui consiste souvent à marcher devant en laissant la tête derrière. Qu'il nous enseigne par son esprit ce que cela signifie que d'être le corps alors que Christ en est la tête, le cerveau, afin que nous puissions pleinement profiter de la vie qui coule justement de la tête et de l'intimité, du lien, du mariage dans notre union avec Christ, notre époux. Je relis Apocalypse 22 pour terminer, versets 1 à 2. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, souligné, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feu servait à la guérison des nations. » Frères et sœurs, à travers ce passage, l'auteur nous dit, l'Éternel Dieu est en train de nous dire, chacun de nous est un arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le symbole de chacun d'entre nous. Chacun de nous est un arbre de vie. Et nous devons recevoir, nous devons tirer la vie d'un fleuve, de la vie qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Si, effectivement, nous voulons produire des fruits durant les 12 mois de l'année, pas seulement un mois, deux mois, non, durant les 12 mois de l'année, et donc les feuilles vont servir à quoi? À la guérison des nations. Telle est la mission que Dieu nous a confiée, que Dieu a confiée à l'Église, c'est-à-dire d'être une bénédiction pour toutes les nations. C'est la promesse qu'il a eu à faire à Abraham et qui a traversé les générations jusqu'à nous. Bien-aimés, puisse Dieu bénir sa parole dans nos cœurs. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, voilà, moi le premier, mais vraiment je reconnais que mon corps a toujours fait des choses sans tenir compte de la tête. Que mon corps, mes membres ont toujours fait des choses sans tenir compte du cerveau. Mais Seigneur, tu m'as fait entendre cette parole. Tu m'as fait comprendre que je dois tenir compte du cerveau, de ce que la tête dit. Et je dois obéir sans discuter. Seigneur, je voudrais que tu accordes à mon frère, à ma sœur, cette capacité de tout recevoir de la tête, de tout recevoir du cerveau, sans tergiverser, sans discuter, mais dans une attitude d'obéissance, parce que c'est la tête qui doit commander les membres du corps. Et lorsqu'il y a une obéissance dans ce sens, il y a l'harmonie dans le corps, qui est l'image même aussi de l'Église, cette Église pour laquelle Christ a donné sa vie. Et Christ désire justement montrer à l'Église la direction qu'elle doit suivre. Mais très souvent l'Église fait des choses sans tenir compte de la tête. Seigneur, nous venons nous repentir ce matin. Et nous prions à nouveau que tu prennes les commandes. Nous prions à nouveau que tu diriges toutes choses dans nos vies, dans la vie de l'Église. Que tu conduises toutes choses, que tu bénisses toutes choses. Oui, Seigneur, nous voulons véritablement être une bénédiction pour les nations, telle que la mission que tu nous as confiée. Mais encore, faudrait-il que nous puissions obéir à la tête. C'est la tête qui commande, c'est la tête qui sait toutes choses à l'avance, plus que le cerveau. Seigneur, nous te remercions pour cette union que nous avons avec le Christ. Accorde-nous vraiment de prendre conscience que nous sommes unis à Christ, que Christ vit en nous, l'apôtre Paul dit, Christ en vous, mais l'espérance de la gloire. Accorde-nous d'avoir cette conscience que lorsque nous marchons, comme la parole de Dieu dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas, que nous soyons conscients que lorsque nous marchons, c'est Christ, c'est la tête qui peut nous dire d'aller à gauche ou à droite. Et ce que nous avons à faire, c'est tout simplement d'obéir. Chercher à connaître la volonté de la tête, qu'est-ce que la tête veut, pour que nous puissions nous mettre à l'accomplir. Seigneur, je bénis ta parole et je prie que tu bénisses ta parole dans nos cœurs, que tu nous donnes de la garder, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais vraiment de serrer ta parole dans notre cœur, que nous puissions produire du fruit chaque mois de l'année, pas un mois, deux mois sur 12. Mais 12 mois sur 12, du fruit en abondance, et être une bénédiction pour ceux qui sont tout autour de nous, et aussi loin aussi, être une bénédiction pour les nations. Qu'il en soit ainsi. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.